Peut-être encore quelque chose avant de commencer. J'ai dessiné ici une Hongrie, parce que je ne veux pas faire injure à votre formation scolaire, à tous, mais peut-être quand même certains ont-ils quelques hésitations pour savoir la forme qu'a ce pays. Alors, la Hongrie joue donc après l'Autriche. Si vous filez en faisant un petit arrêt à Oberitz, là, chez le père François, vous continuez en Autriche, et au bout de l'Autriche, vous trouvez la Hongrie. Au milieu, vous avez le grand fleuve Danube qui partage le pays grosso modo en deux. Mais je veux juste dire une chose qui m'a frappé lorsque je suis allé. J'ai eu la chance de vivre une semaine à Budapest cette année. Et j'ai été frappé parce que toutes les représentations graphiques du pays, dans différents endroits, y compris dans la célèbre prison de la rue Andrassy, eh bien, ça n'est jamais ça. Lorsque les Hongrois vous présentent une carte de leur pays, c'est presque toujours c'est un pays beaucoup plus grand. C'est-à-dire qu'il représente le sud de la Slovaquie, quelques territoires en Slovénie, en Croatie, au nord de la Serbie et énormément en Transylvanie, qui sont des zones d'habitat de Magyars. Et le pays porte comme une peine, une croix finalement historique, et qui n'est pas un sujet de plaisanterie, je vous assure, le fait que tous ces gens aient été séparés de leur pays, ne soient pas dans leur vrai pays, et cela depuis le traité de Trianon, enfin depuis la fin de la guerre de 14-18. On sent très bien qu'ils n'ont jamais accepté cela, et je n'ai pas eu de contact avec beaucoup de Hongrois, mais je me rappelle, il y a une vingtaine d'années, d'un monsieur qui s'est exilé en 1956 et qui avait fait carrière en Suisse. Mais c'était vibrant, comme il me parlait, la première fois que j'en ai entendu parler, comme il parlait de la Transylvanie, qui était son pays, il était hongrois, et finalement, il subissait une injustice, si vous voulez. Donc, ça, c'est une chose qu'on remarque. C'est accessoire, mais dans les responsabilités qu'a assumées le cardinal, dans le souci qu'il a eu après la guerre de se porter au secours des populations, constamment, il y avait le souci aussi d'aider les populations majeures qui étaient au-delà des frontières actuelles du pays. On le ressent tout le temps. Voilà, une petite parenthèse, si vous voulez, introductive. Pardon, encore une chose, ce sera une lecture que je vais vous faire. Quant à la documentation que j'ai utilisée, l'essentiel, ce sont les mémoires du cardinal. Il a écrit ses mémoires, elles ont paru en français assez rapidement après sa libération. Et en plus, un livre de témoignage d'un missionnaire hongrois de la mission de Paris. Bon, si j'avais préparé d'abord ça, peut-être pour un groupe de jeunes, j'aurais peut-être pris plus de liberté pour faire de temps en temps des explications. Peut-être je m'arrêterai de temps en temps. Ce sera peut-être un peu littéraire, un peu lu, un peu, j'espère, pas casse-pied. Et de temps en temps, on m'arrêterait si vraiment ça va pas. Alors, puisque nous voilà en 2006, il y a 50 ans, en 1956, le cardinal Joseph Mindszenty quittait libre son lieu de résidence surveillé et rejoignait Budapest. Le 3 novembre, il adressait un message radiodiffusé au Parlement et à la nation hongroise, disant entre autres que le pays avait besoin de tout, mais, entre guillemets, d'aussi peu de partis et de dirigeants de partis que possible. Le lendemain, dans une ville envahie par les chars russes, il se présenta à l'ambassade américaine, non pas parce que c'était l'ambassade d'Amérique, mais il a demandé à un moment donné quelle était l'ambassade la plus proche. Il a traversé la place où il était, il s'est présenté à l'ambassade américaine, justement choisie pour sa plus grande proximité. À peine une heure plus tard, le président Eisenhower autorisait l'ambassadeur à lui donner asile. Il allait y demeurer 15 ans. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, l'arrestation et le procès du cardinal hongrois, survenu en 1948-49, aura été l'événement qui a fait ressentir le plus intensément aux catholiques occidentaux les maléfices communistes. Je répète ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais je n'apporte là qu'un témoignage personnel que je n'ai point scientifiquement documenté. Il est cependant bien vrai qu'en Valais, dans les années 45-60, la presse était clairement catholique et les bulletins paroissiaux que ma fille vient de dépouiller pour une autre raison donnaient un écho profondément solidaire aux souffrances du peuple hongrois. J'avais 10 ans quand le cardinal fut arrêté, 18 ans à sa libération quand l'admirable jeunesse hongroise se révolta contre l'envahisseur bolchevique. Aucun autre événement ne me paraît avoir atteint l'intensité de ce drame tel que nous, catholiques valaisans, l'avons ressenti. Ayant eu ce printemps le loisir de passer quelques jours à Budapest, j'ai donc visité la prison où le cardinal fut torturé et contraint à des aveux, et je suis descendu à Esztergom pour me recueillir devant son tombeau. Vous en parler ce soir m'est un grand honneur et l'occasion d'accomplir un devoir, admiration, reconnaissance, vénération, amour pour cette colonne de l'Église dressée devant les hordes modernes de la barbarie. Joseph Mitzenti est né en 1892 à Mitzent, dans les vignobles qui bordent le lac Balaton. Je revois la carte, vous avez un petit lac bleu sur votre gauche. Eh bien, c'est dans ce secteur viticole qu'il est né. Son père était un viticulteur qui eut quelques fonctions publiques. De 6 enfants nés, seules 2 sœurs vécurent à l'âge adulte en compagnie du jeune Joseph. École primaire, à 11 ans, collège des Prémontrés à Tsombateli. M'excuse, alors je ne vous garantis pas la prononciation des termes assez difficiles de la graphie hongroise. Entrée au séminaire. Son évêque, le comte Janos Mikes, veut l'envoyer dès la seconde année à l'université de Vienne. Modeste, le jeune Joseph s'y refuse et encourut par la suite le mécontentement de son supérieur. À 23 ans, en 1915, au jour du Sacré-Cœur, il est ordonné prêtre. Vicaire en paroisse, il publie dès sa première année un ouvrage pastoral intitulé « La Mère », qui connaît un deuxième tome et plusieurs éditions. Dès 1917, il est professeur de religion au lycée d'État de Tsale-Gersweg, c'est toujours dans le secteur du lac Balaton, plutôt sur l'ouest du pays. Je le cite, « Cela représentait beaucoup de travail, mais j'étais jeune et j'eus rapidement de bons contacts avec mes collègues et j'entretins très vite des liens d'amitié avec les nombreux hauts fonctionnaires du comitat de la ville. » On embrasse souvent ce mot de comitat, je pense qu'il correspond à notre conseil. « Ils m'aidèrent dans mon travail et m'introduisirent dans la vie sociale et culturelle locale. Je devins membre de la direction des coopératives de crédit, du conseil municipal et rédacteur à l'hebdomadaire du comitat. Cette dernière activité me donna beaucoup de mal, mais mes élèves m'aidèrent énormément, aussi bien pour la rédaction que pour la diffusion de ce journal. » L'année 1918 fut cruelle pour le pays. En octobre, la volonté maçonnique imposait le droit à l'autodétermination aux monarchies danubiennes. Le peuple impuissant attendait la débâcle, mais une résistance s'organisa. Ainsi, en 1919, quand le gouvernement annonça les élections, Joseph Mitzenti prit pour le temps de la campagne électorale la tête d'un parti chrétien nouvellement créé. Arrêté en 1919, c'est la première fois, ça arrivera plusieurs fois par la suite, arrêté en 1919, il connut une captivité plutôt bon enfant, sortant le soir de l'évêché réquisitionné pour rencontrer l'évêque consigné dans un autre lieu. Relâché, interné à nouveau, il fut pris en otage le 20 mars 1919 quand les communistes de Belakoun prirent le pouvoir. Libéré le 15 mai, il fut expulsé de la ville et consigné dans son village natal pour les 2 mois que dura encore la dictature. Le révérend père Jérôme Tsalai rappelle que pendant cette période, sur 42 commissaires du peuple, 32 étaient des juifs. Dans ses mémoires, le cardinal dit seulement « Au milieu de la nuit, un inspecteur de police accompagné de 2 policiers m'arrachant de mon lit me cria en mauvais hongrois, mais avec le ton et l'emphase qui convenait à son titre, « Vous êtes en état d'arrestation ». Dès le mois d'août 1919, Joseph Mitzenti est nommé curé de Tsale-Gersweg, paroisse de 16 000 habitants. Extrêmement actif, développant l'instruction dans les quartiers extérieurs défavorisés, il s'intègre à la vie publique. Ça peut parfois nous surprendre, nous en parlons tout à l'heure. Je devins membre du conseil du comitat ainsi que du conseil municipal. Ces fonctions me firent tout naturellement pénétrer plus avant dans la vie publique. Cependant, je ne me suis jamais entièrement décidé à m'engager dans la politique, à l'exception de cette courte période où, après la chute du gouvernement Belakoun, j'ai pris la direction du parti chrétien pour le comitat. Mais ni à cette époque, ni plus tard, je n'eus jamais de mandat de député, bien qu'à cette époque, il ne fût pas rare de voir siéger en Europe des prêtres dans les organes législatifs. Je n'ai jamais pu estimer assez haut le rôle du prêtre en tant qu'homme politique. Mais j'en restais d'autant plus prêt à lutter contre les ennemis de la patrie et de l'Église, autant par mes paroles que par mes écrits, et à soutenir les hommes politiques chrétiens de conseils engagés et bien précis, du genre de ceux que je donnais aux fidèles. Mais en ce qui me concernait, je tenais à rester simplement chargé des âmes. N'oublions pas que l'exclusion du clergé de toute vie politique est, dans notre pays, en Suisse, le résultat d'un marché. Les séminaristes, les prêtres, sont libérés des obligations militaires, moyennant quoi ils ne peuvent être candidats à des fonctions publiques. Ceci nous appartient en propre. La France a connu récemment encore des curés, maires ou députés. Et je viens de voir, je ne sais pas si c'est dans la Nation, que le projet de constitution de Genève avait été refusé ou discuté parce qu'il y avait expressément mentionné cette impossibilité pour des ecclésiastiques d'avoir des fonctions publiques, ce qui est contraire aux normes européennes, paraît-il. Je crains que nous ayons parfois fait de nécessité vertu et que nous ayons déduit de nos impossibilités, résultat d'un compromis helvétique, que telle devait être dans l'absolu la position du prêtre. Je me souviens d'une rencontre à Écône, où Mgr Lefebvre avait réuni quelques citoyens du Valais. À un moment, explicitant cet esprit, je crus bien dire en précisant à Mgr, « Faites-nous de bons prêches, nous ferons de la politique. » À quoi il me répondit du tac au tac, « C'est tout de même moi qui vous invite ici. » Sa répartie, telle une boule de billard heurtant la mienne, roulait alors dans mon angle sensible et s'enfonçait dans les profondeurs d'une méditation toujours inachevée. Joseph Bizenti n'est point issu d'une famille princière dont il aurait conservé la vocation autoritaire. Il est né de modestes notables de cette aristocratie terrienne qui souvent a assuré durant des siècles le bien commun des communautés urbaines ou rurales. Mais il est né dans une monarchie où le prurit des fièvres électorales devait être moindre et où le bien public pouvait se réaliser sans le recours récurrent au hasard de l'urne. Le curé de Salersweg s'exprime clairement sur ce rôle du prêtre. La politique pour un prêtre n'était à mes yeux qu'un mal nécessaire que j'étais obligé d'affronter de temps en temps. Mais comme la politique peut renverser l'autel et menacer les âmes, je considérais que cela faisait partie du devoir du prêtre de bien connaître la politique des partis. Ce n'est qu'ainsi qu'il sera en mesure de donner des directives aux gens qui lui sont confiés et de se défendre contre les mouvements politiques hostiles à l'Église. Ce serait sûrement un signe de grande faiblesse que de laisser la conscience si souvent abusée des fidèles seule en face de décisions politiques et morales si souvent essentielles. Il faut dire que le cardinal, Joseph Bizenti, avait le goût de l'histoire. Il entreprit, dans le cours des années 20, des recherches sur un évêque. Le livre paru en 1934 fera dire à un historien hongrois: cette œuvre est l'une des sources essentielles à l'interprétation de l'attitude historique du cardinal Bizenti. Donc il a recherché dans de beaux exemples de l'histoire de son pays des modèles qui ont sans doute, servi de référence. Devenu prélat pontifical en 1937 à la suite d'une intense activité pastorale qui lui met sur pied, écoutez bien, 7 nouvelles paroisses, construire 9 églises paroissiales et 12 écoles nouvelles, il atteignit en 1944 le quart de siècle comme curé de sa paroisse originelle. Faut-il s'étonner alors que le pape Pie XII le nomma le 4 mars 1944 évêque de Veszprém, où il arriva le 29, ayant été sacré le 25 par le cardinal Szöredi, primat de Hongrie. Donc, le voilà évêque en 1944, près de la fin de la guerre. La Hongrie était pendant la guerre une alliée de l'Allemagne. Ce n'est point le lieu d'en faire l'histoire. Mais il nous faut signaler que ceux qui en avaient pris idéologiquement le parti, les dites croix fléchées, commencèrent à devenir nerveux au fur et à mesure que s'avançaient les troupes russes. Mgr Bizenti fut arrêté à la mi-novembre 1944 avec 4 prêtres et 22 séminaristes. Dans cette situation, il ordonna 7 prêtres. Déplacés à Sopron, très près de l'Autriche, il y reçut la visite de son ancien évêque, le comte Mikes, qui lui conseilla de fuir à l'Est et de chercher refuge et protection chez les Russes. Il n'avait rien compris du communisme. Et le fait n'est pas si rare que ça, et pas seulement en Hongrie. Hein. Monseigneur Vizenti ne fut pas libéré, mais abandonné par ses gardiens quand les Russes entrèrent à Sopron la nuit de Pâques. Dans ses mémoires, le cardinal ne s'arrête pas sur les horreurs de la libération soviétique. Il signale cependant qu'en mai 1945, il fut enfin possible aux évêques de se faire une idée approximative de la situation du catholicisme hongrois. L'Église de notre pays avait eu rarement à saigner par autant de blessures graves qu'après cette période de la Deuxième Guerre mondiale, écrit-il. Alors déferlèrent sur le pays la meute des communistes hongrois préparés en URSS et qui entreprirent de créer l'apparence démocratique du régime totalitaire qu'ils voulaient instaurer. Ils créèrent ainsi un parlement où les communistes étaient 72, 35 les socialistes, 12 les agrariens et 57 les petits propriétaires, qui est le nom d'un parti fort connu en Hongrie. On créa des commissions, des tribunaux, sous prétexte de poursuivre les crimes de guerre, en réalité pour neutraliser et éliminer tous ceux qui pouvaient se dresser contre les Russes et leurs affidés. La libération que subit la France était une semblable préparation. Vis-à-vis de l'Église, les vainqueurs prétendirent d'abord assurer sa liberté en la préparant sans délai à la lui enlever. Cependant, durant cette époque de privation et d'inquiétude, le peuple se rapprocha de l'Église et le cardinal dit ceci. Il n'y a pratiquement pas un moment dans leur histoire où les Hongrois catholiques, comme protestants, n'aient fait preuve d'une aussi admirable fidélité envers la chrétienté qu'à cette période difficile. Les grands exemples de la période qui avait précédé le courage et la ténacité de leurs chefs spirituels pendant la domination nazie portaient maintenant leurs fruits. L'appel dramatique de mon prédécesseur, le cardinal Soredi, primat de Hongrie, eut aussi un grand retentissement. Il demanda à tous les ecclésiastiques de ne pas abandonner les fidèles, de rester à leur poste, voire même au prix du martyre. 500 000 fidèles dans les rues de Budapest manifestait cette fidélité le 20 août 1946. On essaya alors le noyautage, tandis que les militants marxistes sur ordre s'approchaient des sacrements, puis on porta trois coups à l'Église. On lui enleva ses moyens par la réforme agraire, on réduisit radicalement la presse catholique, et le seul parti chrétien autorisé était progressiste. Puis on procéda à une attaque généralisée contre les figures historiques de la Hongrie chrétienne, comme le grand fondateur Saint-Étienne. Pour les derniers pas du prélat sur la montée vers les responsabilités suprêmes, notons que le 8 septembre 1945, le président de la conférence des évêques va lui demander de la part du Saint-Père d'accepter l'archevêché d'Esztergom. Donc Esztergom, ça se trouve là, tout au nord, au centre du pays, au nord, et c'est la capitale spirituelle du pays, et l'archevêque d'Esztergom était le président de la conférence épiscopale, enfin le prince primat de Hongrie. L'historien Mizenti, le patriote Mizenti, le prélat Mizenti, avaient tous ici rendez-vous avec le pays qu'il rencontrait dans la profondeur de son histoire millénaire. Deux mots sur Esztergom. Esztergom offrait à cette époque le spectacle d'une ville en partie détruite par la guerre. Le cardinal prononça sa première allocution dans une basilique sans fenêtre, ayant même à combattre de la voix les aboiements rageurs d'un violent orage. Les anciens parlaient de cette ville comme de la perle du pays, beauté naturelle, situation centrale dans les Carpates. C'est là qu'est né Étienne, le Saint-Roi. Il y fut baptisé, couronné de la couronne que le pape Sylvestre lui avait offerte. Deux siècles et demi plus tard, pour des raisons stratégiques, le roi transféra sa capitale à Budapest et donna son palais à l'archevêque. Esztergom, ayant été le centre du pays au Moyen-Âge, elle le demeura dans le cœur du peuple. Elle était le type même de l'État chrétien de ce temps béni, le sacerdoce et l'empire s'y donnent la main. Ce principe était incarné par le roi et l'archevêque. Dans ce pays, la Sainte Couronne était l'origine du pouvoir. Elle unissait le roi à son peuple et représentait la souveraineté nationale. Comme le droit de couronner le roi revenait au primat, il était un haut dignitaire de l'État et de l'Église. Il représentait le roi quand celui-ci était absent du pays, il était son conseiller. Il devait le rappeler à l'ordre, et bien des archevêques d'Estergom connurent la prison pour avoir assumé cette tâche. En 1942, le prédécesseur du cardinal Vizenti le précisait encore dans une allocution radiodiffusée. En la personne de chaque primat de Hongrie sont heureusement liés la plus haute dignité de l'Église catholique et celle du droit public hongrois, ce qui symbolise la royauté chrétienne et hongroise. Donc le prince primat était le numéro 2 politiquement de la nation. Au vœu de la diète provisoire réunie à Debrecen en 1945, il répondait télégraphiquement ceci: « Grand merci pour vos souhaits chaleureux. Le premier haut dignitaire de l'État se tient à la disposition de sa patrie. » Entre l'installation du primat en octobre 1945 et son arrestation, il se passera 3 ans. 3 ans d'une activité intense dans un pays sinistré, avec l'opposition violente des pouvoirs et tous les pièges, tous les traquenards, tous les montages que le communisme s'est inventé et mettre en application. Monseigneur Vizenti est à peine installé qu'il vient à Budapest et il parle. « Je sais que notre noble et fier peuple hongrois ne tend la main qu'à contre-cœur, n'aime pas dévoiler ses plaies. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est leur primat qui le fait à sa place, en s'adressant au monde entier, aux peuples et aux nations, et en lançant cet appel à l'aide dans toutes les directions, sauver le peuple hongrois de la catastrophe. » Il en appelle à Rome, à l'Amérique catholique, aux frères hongrois exilés. Dès que les dons arrivèrent, ce fut le conflit avec le Parti communiste qui voulait s'en assurer, bien sûr. Rien ne venait de Russie, mais on se mit à annoncer l'arrivée ailleurs dans le pays, dans les cités de l'Est, d'aide soviétique, 50 000 tonnes de farine par exemple. Le primat réunit les curés, les évêques, comme les associations pieuses. Mais il rappelle constamment qu'il ne faut pas se suffire de l'aide matérielle. Il dira par exemple, « Là où la loi naturelle et reconnue commence à chavirer, il n'y a qu'un moyen d'arrêter ce chaos moral, approfondir la vie de notre foi. J'ai été moi-même directeur spirituel pendant plus de 25 ans. Je veux être maintenant un bon pasteur s'il le faut, qui s'il le faut donnera sa vie pour son Église, pour sa patrie. Chers frères, soyons maintenant le peuple de la prière. Si nous réapprenons à prier, nous aurons en nous une source inépuisable de force et de foi. » L'autorité du primat et la force de l'Église vont se manifester en 1946. Le maréchal russe Vorochilov tentait d'imposer pour les élections une liste unique, dont on avait préalablement précisé les proportions. On promettait au seul parti bourgeois toléré 40%. Puis même 47,5% des mandats, mais jamais bien entendu la majorité. Mais le 1er novembre 1945, Monseigneur Vizenti fait diffuser la lettre pastorale suivante. Maintenant, à la veille des élections, nous ne pouvons plus nous taire. Nous devons expliquer clairement qu'un électeur chrétien ne peut donner sa voix à un parti ou à un groupe qui porte à nouveau en lui l'oppression et la dictature et qui a déjà assez souvent abrogé tout droit de l'homme ou droit naturel. C'est très alarmé que nous devons reconnaître que le ministre anglais des Affaires étrangères a raison quand il dit qu'on a l'impression qu'en Hongrie, un régime totalitaire ne sera remplacé que par un autre. Le résultat est stupéfiant. 17% aux communistes, 57,7% au parti des petits propriétaires terriens que soutenait l'Église, mais ce parti n'avait pas une direction à la hauteur. Il céda à la pression soviétique, acceptant la critique violente qu'on faisait de la lettre pastorale, accusant le cardinal de vouloir empêcher une transformation démocratique du pays. On accepta un gouvernement de coalition, laissant aux communistes le poste de ministre de l'Intérieur. Et on vit arriver comme premier ministre Zoltán Tildy. Monseigneur Vizenti, allant à Rome, il lui fit sa première visite. Le futur cardinal le mit en garde contre la volonté marxiste d'instaurer la République, donc de porter atteinte à la structure millénaire du pays. Tildy promit de s'y opposer. En fait, ce politicien était un pasteur protestant qui voulait devenir président de la République. Sa famille était communiste depuis 1919. Les communistes utilisèrent son ambition et il fut leur homme. Ces mots du cardinal lui furent adressés le 31 décembre 1945. Je n'ai pas été informé officiellement, mais parce que ce bruit s'en fait de plus en plus instant, je me vois obligé de prendre en considération et, si tant est qu'il corresponde à une réalité, de protester. On parle d'un projet de gouvernement qui consisterait à réformer prochainement la Constitution, à abolir la monarchie millénaire hongroise et à proclamer la République. Si ces bruits devaient correspondre à une réalité, j'élèverais une protestation solennelle, bien que non encore informée officiellement, au nom du pouvoir public qui revient depuis 900 ans au prince primat. Il faudrait des livres pour passer en revue toutes les basses manœuvres du communisme russo-hongrois attelé à la ruine de l'Église et au déracinement du chêne robuste qui lui tient tête. Là comme ailleurs, il y a les idiots utiles que le communisme manipule par les sentiments, égalité des hommes, suppression de la misère, édification d'une société sans classe dans un monde libre et juste. Mais il ne saurait pénétrer profondément en milieu chrétien que si la religion a perdu son pouvoir dans la vie sociale. À une période de propagande intense, disant aux catholiques qu'ils pouvaient collaborer avec eux, le cardinal, comprenant qu'il reste peu de temps, décida avec l'épiscopat de préparer les fidèles à l'épreuve par l'intensification de la vie religieuse. Il dit « Nous essayâmes de faire naître un mouvement expiatoire dans l'esprit du message de Fatima ». Entre le 2 et le 9 février 1946, on organisa des neuvaines dans toutes les églises du pays. Au sortir d'une de ces cérémonies, parmi les fidèles rassemblés sur le parvis pour saluer le cardinal, se mêlèrent des provocateurs qui crièrent « Salassi », qui était le nom du chef des croix fléchées. Les journaux, alors, annoncèrent que le cardinal avait organisé une manifestation antidémocratique avec l'aide des croix fléchées. Cela provoqua l'indignation dans tout le pays et donna l'occasion d'organiser des manifestations où l'on criait « La corde pour Mizenti ». Voici la mise au point du cardinal. Il prenait toujours grand soin à rectifier, à remettre les choses à leur place. Les prêtres, comme les fidèles de l'Église catholique de Hongrie, attendent des journalistes qu'ils écrivent leurs articles destinés au pays, même ou à l'étranger, en fonction de la vérité et des faits en toute objectivité. C'est là une exigence de l'Église, mais aussi du pays et de la nation tout entière. Ces derniers temps, malheureusement, on a tellement dévié de ce principe fondamental qu'on est obligé de penser que c'est intentionnel. Le prince primat ne cherche nullement querelle aux autorités laïques. Il accomplit de toutes ses forces et de toute son âme ses tâches apostoliques et laïques. Dans son ministère, il veille et travaille, lutte et combat, mais toujours au seul service de la vérité. C'est la raison pour laquelle l'opinion publique le suit aussi visiblement qu'elle l'a fait dernièrement. Si le pouvoir laïque respecte, conformément aux principes démocratiques, la liberté et les droits de l'Église, il ne peut y avoir de conflit, comme la presse essaye de le faire croire depuis un moment. Puis ce fut un complot des élèves et cent autres montages mensongers et ignobles. Les choses allèrent leur train et le 12 mars 1946, le gouvernement fit approuver une loi dite de défense du pays, que le peuple appela tout aussitôt la loi du bourreau. Au cours de cette année, luttant sur le front des écoles catholiques que le régime voulait détruire, une sainte union se réalisa entre catholiques et réformés. Les associations de parents se firent fortement entendre, il fallait donc les dissoudre. Et voici comment cela se fit. Un soldat russe fut assassiné dans une rue de Budapest, tiré par un camarade sous les yeux des passants. Mais la police politique disposait du cadavre tout frais d'un jeune homme qu'elle avait torturé dans les caves de la rue Andrassy, le déposa dans le voisinage et on le découvrit. On monta une histoire où celui-ci était l'assassin. Il était membre de la jeunesse catholique, sortant tout juste d'une conférence peut-être, hein, et portait, écrivit-on, l'uniforme de Kalot, K-A-L-O-T, qui était le nom de cette association. Le général russe exigea la dissolution de toutes les associations de jeunes, ce que le président du conseil fit immédiatement. Tous les biens de ces associations furent saisis et donnés aux organisations marxistes de jeunes. Les éclaireurs furent ainsi supprimés. Quant à l'Action catholique, qui n'avait jamais eu d'uniforme, et le mensonge apparaît toujours quelque part, hein, puisqu'on disait qu'il portait l'uniforme de l'association, quant à l'Action catholique qui n'avait jamais eu d'uniforme, elle avait à sa direction un jésuite qui avait proposé aux Russes dès leur arrivée de collaborer avec eux. Elle n'attendit pas l'avis des évêques qui avaient fixé des conditions précises à la collaboration qu'on proposait. Voici la conclusion du cardinal qui nous laisse ignorer le nom de ce jésuite. La direction de la Calotte n'attendit pas longtemps l'avis des évêques, mais agit de son propre chef. Elle accepta les conditions, malgré les protestations énergiques des représentations locales. C'était alors la fin d'une organisation de jeunes, autrefois pleine d'espoir et d'avenir. Donc le grignotage, vous voyez, continue à se faire, est plus ou moins rapide, plus ou moins violent. Il ne m'a pas été donné de rencontrer souvent des Hongrois. Mais ici, je raconte l'histoire de ce Hongrois qui me parlait de ce pays étrangement racorni. Je saute donc plus loin. De 1945 à 1946 et 47 et encore en 48, le cardinal s'adresse aux fidèles, mais aussi aux ministres hongrois. Il adresse un télégramme au roi d'Angleterre et au président Truman. Quand en 1948 les communistes eurent pris le pouvoir à Prague, ils traitèrent avec Budapest au niveau du parti et prétendirent que toute la question des émigrés ou des gens au-delà de la frontière était réglée. Ce n'était qu'un trompe-l'œil. La conférence des évêques protesta et il y eut affrontement public du Conseil des ministres et de l'Église. À la suite d'une dernière mise au point publiée le 28 octobre 1948, les communistes décidèrent de préparer par tous les moyens l'arrestation du cardinal. Ils ne pouvaient supporter indéfiniment un homme qui considérait, je cite son texte, que l'amour de la vérité était la vertu essentielle d'un évêque, qui affirmait encore que la religion n'était pas une affaire privée et que l'Église n'avait pas à rester neutre pour ce qui touchait à la vie publique, car l'essentiel de toute société est la croyance en un Dieu transcendant et en une vie dans l'au-delà. Aux jeunes Hongrois, il disait « Devons-nous nous ranger du côté de ceux qui affirment qu'il faut balayer notre passé ? Mais il faut faire un usage modéré du balai. Le balai doit, à mon avis, être utilisé pour le fumier et la corruption. La plus belle image de notre passé est l'image de notre mère. Et nous ne pouvons pas nous en approcher le balai à la main, mais la tête penchée. Nous n'acceptons pas que le grand savoir et le caractère de nos maîtres soient balayés. Ils doivent nous indiquer la voie à suivre dans le futur. Et ce balai se révélera être bien faible en face des deux tables des commandements. Nous n'accepterons pas que le balai s'attaque à notre mère bimillénaire, l'Église, ni à notre mère millénaire, la Hongrie, notre patrie. » Les communistes lui reprochaient ses nombreuses références aux faits et aux lieux historiques. Ils le qualifièrent de reliquat de la période féodale, d'évêque borné et réactionnaire, utilisant des méthodes de combat datant du Moyen-Âge. Parlant au peuple, lors d'une visite canonique, il avait commenté d'anciens protocoles de visite et il poursuivait ainsi « Cessons, chers fidèles, de commenter le passé. Vos ancêtres vivaient dans l'amour de leur église, de leur école catholique, de leur cimetière. Ils vivaient dans le respect du caractère sacré de la famille. Ces quatre lieux, ces lieux sacrés, se touchent. Les seuils de l'église, de l'école, du cimetière et de la famille sont proches. » En 1947, les communistes frappèrent un grand coup, éliminant leurs adversaires politiques au niveau du Parlement et obtenant une couverture apparemment majoritaire de leur action politique. En 1948, après une effroyable et cruelle préparation, le gouvernement nationalisa 4885 écoles, dont 3148 appartenaient à l'Église catholique. Là encore, les manœuvres du gouvernement pour obtenir une collaboration épiscopale, une fois le brigandage accompli, se heurtèrent à la lucidité courageuse du primat Mitsenti. Durant l'été 48, la campagne contre le cardinal persista pour s'amplifier dès l'automne. « Nous détruisons le mitsentisme » était le slogan. Les résolutions contre le cardinal étaient commandées dans toutes les communes de Hongrie. Une nuée d'agents envahirent les administrations et les entreprises pour faire signer les pétitions exigeant son éloignement. Le cardinal répondait encore le 18 novembre par un appel au peuple. Tout serait à citer de cette lettre qui justifiait l'action de l'Église, en particulier les cérémonies mariales qui avaient renforcé la conscience religieuse des fidèles. Quant aux résolutions le concernant, voici son jugement. Une liberté de s'exprimer démocratique n'existe pas. n'existe pour ces résolutions que sur le papier, car tout argument contraire est exclu, et ceux qui usent du droit de critique, pourtant reconnu par la loi, doivent s'attendre à être licenciés ou à encourir des préjudices. La détresse de ces êtres me peine profondément. Toute ma sympathie va à ceux qui s'opposent à la tyrannie. L'appel du cardinal fut étouffé tant que faire se peut. Des prêtres auxquels la police avait empêché la lecture de l'appel, on publia qu'il l'avait refusé parce qu'il condamnait son attitude. C'était, ce fut et ce sera le monde sordide du mensonge. On envoya à Estergom pour parler au cardinal trois catholiques, on disait progressistes, ayant les trois donné leur signature à une lettre ouverte demandant son départ. L'un d'eux se mit à l'écart pour montrer qu'il le faisait à contre-cœur. Le second, journaliste catholique, était déjà nommé ambassadeur auprès du Saint-Siège où il n'alla jamais. Le troisième, ancien ambassadeur à Moscou, écrivain catholique, prêcha au cardinal la reconnaissance du pouvoir actuel car le communisme n'était plus l'ennemi de la religion. Le cardinal publia encore sa réponse aux lettres ouvertes à cette ambassade et cette ambassade le 8 décembre. Puis il attendit son arrestation. Il appela sa mère à Estergom. Elle avait 74 ans et il espérait qu'elle recevrait moins péniblement ce coup du sort étant à ses côtés. Il prit ses dernières dispositions alors et le 16 décembre, il eut lieu la dernière conférence épiscopale. Les policiers arrêtèrent les voitures et contrôlèrent les papiers. Le 23 décembre, ils encerclèrent la maison du cardinal. Sans mandat officiel, ils pénétrèrent dans le palais archiépiscopal et commencèrent leurs perquisitions. Le cardinal, sa mère et trois prêtres de la curie furent enfermés dans une petite salle à manger. La perquisition dura 5 heures. La police avait arrêté des semaines plus tôt un secrétaire du cardinal. Celui-ci avait conduit la police à travers toute la maison. Il riait tout le temps. Son visage et ses yeux étaient totalement changés. Les officiers de police le traitaient comme un fou et le disaient leur ami. Le cardinal en parle de cette façon. J'étais profondément affecté par ce jeu macabre et littéralement obsédé par le docteur Zakhar et le changement profond opéré en lui, que ce soit à table ou dans la solitude de la nuit. Mon pauvre secrétaire, il n'avait que 35 ans, un homme dans la force de l'âge. Maintenant, après 5 semaines de détention, une personnalité brisée. Avant, un homme décidé, fort, maintenant une épave. Mais le secrétaire n'était qu'un personnage secondaire. Ce qu'on voulait atteindre à travers lui, c'était le primat. Prêt à affronter le pire, je revêtis ma soutane la plus usée, mis le plus simple de mes anneaux épiscopaux à mon doigt et la chaîne la plus modeste. Je pensais qu'ainsi, s'il devait m'arrêter, il ne volerait que ces objets peu précieux à l'église. Je préparais aussi une image qu'un fidèle inconnu m'avait envoyée en novembre. Elle montrait le Christ avec sa couronne d'épines et on pouvait lire en dessous « De victus vincit, vaincu il vint ». Cette image l'accompagnera pendant toute sa détention et elle se trouve aujourd'hui dans le musée de la rue Andrassy. C'est une image qui est connue du Christ crucifié, du visage du Christ crucifié. Et c'est devant cette image qu'il dira la messe quand il pourra la dire. Le 26 décembre, 80 policiers investirent la maison. Pardon. Le colonel Dexy pénétra chez le cardinal et lui dit « Nous sommes venus vous arrêter ». Le cardinal demanda un mandat. « Nous n'avons pas besoin de cela », lui répondit-on. Ma mère, qui avait entendu du bruit, sortit de la chambre. Elle poussa un cri. Je me tournai vers elle pour lui faire mes adieux. Les policiers essayèrent de m'en empêcher. Je fendis leur rang et allai vers ma mère. Elle se jeta à mon cou. « Où donc te conduit-on, mon fils ? Je pars aussi avec toi. » Je l'en dissuadai. J'embrassai sa main et ses joues. Elle sanglota à fendre le cœur en me tirant en arrière. Une colonne de voitures conduisit le cardinal au 60 de la rue Andrassy, une grande artère de la capitale, dans un bâtiment où des Hongrois qui avaient été formés par la Gestapo hitlérienne avaient créé, dit le cardinal, un monstrueux atelier de torture, un véritable centre de l'horreur. Cette prison avait alors ses pachas sanguinaires. Le principal était le colonel Gabor Péter, qui supervisa toutes les mesures qui visèrent à briser le cardinal et à l'amener, avouant les crimes que le régime voulait devant un tribunal public. Donc, le cardinal écrit « Je ne connaissais pas Gabor Péter, mais j'eus par la suite grandement l'occasion de le connaître très bien. À l'origine, l'homme s'appelait Benjamin Heisenberg. Il avait fait son apprentissage de tailleur dans sa jeunesse et possédait sans doute depuis cette époque la faculté de paraître un homme raffiné, silencieux et sociable. Bref, de se montrer humain. Il essaya de se montrer à moi sous son meilleur jour. La voix chargée d'émotions, il me parla de sa pauvre mère chez qui il allait couper du bois en hiver. Desseux-Sulioc a fait un portrait authentique de Gabor Péter. Lorsqu'en 1947, l'Assemblée nationale leva sur la pression des Russes l'immunité parlementaire de ses députés qui étaient accusés d'avoir participé à un complot contre la République, Gabor Péter apparut en personne au Parlement. Flairant une proie, il attendit le moment de se jeter sur les malheureux qui voulaient quitter le Parlement. De son propre chef et en jetant des regards remplis de haine et de vengeance, il enchaîna les personnes qui lui étaient livrées au portail de la maison. Ce n'était plus le tailleur poli, mais bien une bête sadique qui se jeta sur ses victimes pour les détruire. Je ne saurais mieux faire pour comprendre le martyr que connut ici le cardinal Bizenti que de citer ses mémoires. Dorénavant, je citerai assez longuement ce qu'il en a écrit. Dès mon arrivée, on me mena dans une pièce froide au rez-de-chaussée, où s'assembla aussitôt une grande foule pour assister de visu à mon changement de costume. Le major de la police et un boiteux, un agent de la police secrète, me saisirent, m'ôtèrent ma robe, sous les braillements et les rires de l'assistance, enfin aussi mes sous-vêtements. Je reçus un large costume oriental bariolé de polichinelle. Quelques-uns se mirent à danser autour de moi et le major vociféra « Chien, il y a bien longtemps que nous attendions cet instant, c'est heureux qu'on en soit enfin arrivé là. » Après qu'on m'eut dérobé mon costume ecclésiastique et les quelques objets mentionnés, bréviaire, rosaire, imitation, médaille de la Vierge, montre et code pénal, on me conduisit à l'étage supérieur, à la chambre qui m'était assignée. Le gardien de la cellule, un ancien maçon, se tenait presque continuellement avec moi. Il avait de jeunes compagnons qui sans arrêt tenaient des propos grossiers et racontaient des obscénités. Il pouvait être 11 heures environ lorsque des pas pesants se firent entendre. On venait me chercher pour un premier interrogatoire. Par le couloir, on alla dans une pièce située sur le côté. Il y avait là une table pour écrire, derrière laquelle était installé le juriste du bolchevisme, le colonel de la police, Giulia Dexi. Près de lui se tenaient assis 5 autres officiers de police, 2 camarades femmes, cigarettes au bec, avaient pris place devant les machines à écrire. Ils se comportaient familièrement les uns avec les autres, se tutoyaient. Une secrétaire appelait Jeannot, l'officier qui interrogeait. Giulia Dexi, lui aussi, s'alluma une cigarette et demanda « Comment vous appelez-vous » Je le lui dis. Suivirent d'autres d'entrée les questions auxquelles on voulait qu'il donnât la bonne réponse et qu'il repoussa. Vous empêchez le progrès du peuple hongrois en est un exemple. Le cardinal refusant de signer un protocole falsifié, Dexi s'écria « Ici, les accusés sont tenus de faire leurs aveux dans la forme que nous désirons. » Il fit un signe qui doit signifier « Apprenez-lui à reconnaître sa faute. » Le commandant me ramena dans la cellule. Il était à peu près 3 heures du matin. 2 gardiens retirèrent la table du milieu de la pièce. Le commandant me cria de me déshabiller. Mais je ne me conformais pas à son ordre. Il fit signe à ses aides. Tous ensemble m'arrachèrent ma veste d'arlequin et mon pantalon. Puis ils sortirent et s'activèrent fiévreusement à chercher dans le couloir. Subitement, un lieutenant de forte stature entra. « J'ai été partisan, me dit-il. Son langage était hongrois, mais pas sa figure sauvage et haineuse. Je me détournai. Il recula pour s'élancer aussitôt en courant sur moi et me décocher de toutes ses forces un coup de pied avec sa botte. Nous tombâmes tous les deux contre le mur. Avec un rire diabolique, il cria « Voilà l'instant le plus heureux de ma vie ». Il aurait pu s'abstenir de prononcer ces paroles. Ses sentiments se lisaient sur les traits effroyablement grimaçants de son visage. Le commandant revint et renvoya le partisan. Il exhiba une matraque en caoutchouc. me maintint au sol et commença à me frapper, d'abord sur la plante des pieds, ensuite et sans interrompre sur tout le corps. Dans le couloir et les pièces attenantes, des éclats de rire de plaisir sadique accompagnaient les coups. Les participants, hommes et femmes, à l'interrogatoire se trouvaient apparemment à proximité et Gabor Péter devait probablement être avec eux. Le commandant respirait péniblement, mais n'en continuait pas moins de frapper malgré la fatigue. Il en tirait une volupté et un plaisir évident. Je serrai les dents, mais ne parvins pas à rester tout à fait muet. Je gémissais faiblement sous la douleur. Puis je perdis connaissance, et l'on dut m'arroser d'eau pour me réveiller. On me releva, et l'on m'étendit sur le divan. Combien de temps dura cette torture, je ne saurais plus le dire, je n'avais plus de montre, et si j'en avais eu une, on ne m'aurait pas laissé le loisir de la regarder. Puis on me rhabilla et on me ramena à l'interrogatoire. De nouveau, on me demanda ma signature, je la refusai une nouvelle fois et déclarai « Ce n'est pas ma déposition ». Dexy, furieux, ordonna qu'il y retourne, et de nouveau on me battit. Une troisième fois, on me pria de signer sans succès. Une troisième fois, la matraque de caoutchouc sous les quolibets des spectateurs essaya d'obtenir avec une énergie qui n'avait rien perdu de sa vigueur. On me ramena encore pour signer, j'objectai encore. Dès que vous me présenterez un procès-verbal qui ne confirme que ce que j'ai dit véritablement, je me conformerai à votre désir. La réponse fut à nouveau, ici c'est la police et pas l'accusé qui décide du compte-rendu. Beaucoup de temps s'était écoulé et le jour commençait à poindre. Ceux qui avaient mené l'interrogatoire paraissaient fatigués eux aussi, si bien que pour cette nuit-là, on me reconduisit à ma cellule. Qu'on me pardonne ici ma brièveté, mais qu'on considère que ces tortures vont durer 2 semaines. Le cardinal ne cède pas. Il mange à peine, se méfiant des drogues qu'on mêle certainement à la nourriture. Il lutte d'arguments, rectifie, explique. La charité publique n'était pas un trafic de devises. La rencontre d'Otto de Habsbourg à New York n'était pas l'amorce d'un coup d'État, etc. La matraque toujours sanctionnait son refus de signer les aveux exigés. Une nuit, l'homme qu'il torturait avait en main la matraque et un couteau long et tranchant. Il me fit courir comme un cheval dans une école d'équitation, au trot et au galop. La matraque s'abattait sur mon doigt tout instant. « Je vais t'abattre. Avant le matin, je t'aurai déchiré en morceaux. Je te jetterai au chien ou je te lancerai dans le canal. Et encore, si tu n'avoues pas, je ferai venir ici ta mère dès demain matin. Tu seras nu devant elle. Je suppose qu'elle en aura une attaque. Ce ne sera que justice. Puisqu'elle t'a mise au monde, elle ne mérite rien d'autre. Ainsi, tu deviendras son meurtrier. » Finalement, les policiers parvinrent à leur but. Ils me firent, dit le cardinal, ils me firent confirmer des mensonges grossiers. Je me révoltai d'abord en dépit de mon épuisement, mais je n'étais plus en état de combattre. Je tremblais d'avance à l'idée d'être matraqué et je signais, en utilisant cependant une dernière ruse pratiquée naguère par les prisonniers hongrois en Turquie, je fis suivre ma signature des initiales CF, qui signifient en latin, en réalité, Coactus fecit, qui veut dire « je l'ai fait par obligation, j'ai signé sous la contrainte ». La chose eut des suites néfastes. La nuit suivante, le colonel se précipita dans ma cellule avec une escorte de 5 sbires. Ils me frappèrent avec des poings et avec de gros dossiers. « Sale bête !» criait Dexy, « tu nous as pris pour des idiots. Tu ne dois rien ajouter ni au-dessus, ni au-dessous, ni à côté de ton nom. » Tu n'es plus cardinal, tu n'es plus archevêque, seulement encore un forçat. Il avait dû interpréter que ce CF était une sorte de dignité dont il voulait encore s'assurer la réalité. Donc ils n'avaient pas compris exactement ce que voulaient dire ces initiales. Plus loin, le cardinal dira qu'après la fin de la deuxième semaine de détention, entre le 10 et le 24 janvier, il ne se souvient que de fragments. Il fut moins battu, mais davantage drogué. Il conclut, de toute évidence, j'étais déjà d'une certaine manière devenu un autre homme. Dans la préparation éloignée, puis plus rapprochée du procès que le régime communiste entendait bien mener à chef, on eut largement recours à la falsification de documents, mieux, on en inventa de toutes pièces. La supercherie fut publique dès 1950. Le couple Sulner, qui avait collaboré, s'était enfui aux États-Unis le 6 février 1949 et avait publié un livre pour le raconter. Donc ils avaient mis, c'est quelqu'un qui avait mis au point une machine de copie, et à partir de certains textes d'une personne, ils avaient facilité le moyen pour arriver à en établir d'autres de nouveaux, qui étaient évidemment les textes que l'on voulait qu'ils aient été écrits pour les condamner. Donc le mensonge toujours. À propos du procès, je m'en vais seulement ici citer quelques propos du cardinal. Les metteurs en scène de ce procès-spectacle se souciant énormément de l'opinion publique, le parti essaya donc de gagner la presse mondiale à sa cause et pensa se servir aussi dans ce but de ma personne. On lui fit rencontrer un sénateur italien, journaliste communiste, qui déclara ensuite dans la presse italienne l'avoir rencontré dans une chambre bien meublée lisant son bréviaire. Le 2 février, il le transférait dans une prison connue où il y avait ce jour-là 773 détenus pour 300 places. Le 3 février, le procès commence. « Circus incipit », murmure le cardinal à l'un de ses co-accusés. Il dura 3 jours, où tout fut fait, organisé, imposé, pour donner une apparence de vérité aux mensonges élaborés. Ceci fut encore affiné dans un livre noir publié qui permit au cardinal, lors de la rédaction de ses mémoires, de faire les mises au point qu'il jugea nécessaires. À quelque chose, malheur est toujours bon, oui. Ma défense, dit le cardinal, fut donc rendue impossible. Dès l'abord, puisqu'on n'autorisait aucun témoin à déposer en ma faveur, au contraire, tous les témoins de la partie adverse purent prendre la parole. Seulement, eux non plus ne pouvaient pas s'exprimer librement, car tous étaient détenus ou tout au moins placés sous la surveillance de la police. Le verdict fut lu le soir du 8 février. Condamné à la réclusion, il fut conduit dans une prison et non dans une maison de force. Il ignora longtemps les déclarations de soutien du pape Pie XII et en particulier les propos qu'il tint dans un consistoire secret le 14 février. Il reçut 3 fois la visite de sa mère à la prison commune. La première fois, 2 semaines après le procès. Il dit « Ma mère me rendit visite pour la 3e fois le 25 septembre 1949. Elle parla de cette rencontre au médecin qui avait été celui de notre famille et à des amis qui s'inquiétaient pour moi. Elle leur dit que j'étais très abattu. Et en lisant le livre de souvenirs du docteur Joseph Vexet, j'ai appris que ma mère, en ce temps-là, avait eu l'impression que les communistes essayaient de provoquer ma mort naturelle. » Le cardinal fut conduit en maison de force le 27 septembre 1949 au 13 mai 1954. Il ne sut jamais où il était vraiment. Il fut très durement traité. Les gardes les plus grossiers lui étaient réservés. Des paquets que sa mère lui envoyait et qui arrivaient après 6 à 9 mois, le sucre en était enlevé, les citrons également. C'est le jour de la fête du Sacré-Cœur de Jésus en 1950 qu'après 9 mois de maison de force, je pus officier pour la première fois. Donc, et puis la première fois, célébrer la messe. Les mémoires du cardinal ont des pages touchantes pour évoquer, après la dureté de la prison, la vie religieuse qu'il y put mener. La messe qui durait de 2 à 3 heures, le bréviaire médité. Son état de santé se détériora sérieusement en 1954. Il ne pesait plus que 44 kilos. Il fut alors transféré dans un hôpital-prison. En juillet 1955, il était exempté de la peine de réclusion et le 17 juillet 1955, transféré dans le voisinage de Pécht, au sud du pays, sur le Danube, dans un castel rural qu'on avait entouré d'une haute palissade. Sa mère put lui rendre visite 2 fois dans ce séjour. Il faudrait lire les pages 333 à 337 où Joseph Bizenti parle de sa mère et dit tout ce qu'elle fut pour lui et qui se résume dans cette phrase « Elle a été pour moi le plus beau don de la Providence. » Libération. Au cours de l'année 1956, le régime essaya d'obtenir du cardinal une demande de libération qu'il était prêt à lui accorder. Il s'y refusa, ayant posé au gouvernement des conditions qui rendaient justice à l'Église. Finalement, le 24 octobre, on annonça la révolution de Budapest. Le cardinal refusa de partir avec ses gardiens. Le 30 octobre au matin, il célébra la messe, puis une délégation des habitants vint au portail. Je pris au mur les 2 photos qui m'étaient les plus chères, la photo du Saint-Père et celle de ma mère. Les villageois pleuraient avec moi, ils pleuraient avec un cardinal, eux qui étaient presque tous luthériens ou baptistes. Dans la soirée, une délégation de la garde vint lui dire qu'il était libre. Puis un groupe d'officiers va se mettre à sa disposition pour l'emmener à Budapest. Il y fut le 31 octobre. Il n'eut que peu de jours devant lui, mais il procéda immédiatement à l'expulsion des prêtres de la paix relevant de ses archidiocèses. Le 3 novembre à 20h, il fit un discours au Parlement, nous en avons parlé, discours diffusé à la radio. Dans la nuit, les Russes envahissaient Budapest. Le cardinal s'enquit de l'ambassade la plus proche, c'était celle des USA. Le cardinal Vizzenti allait demeurer 15 ans dans le bâtiment de l'ambassade de 56 à 71. Les Américains appliquèrent sévèrement les règles du droit d'asile, ce qui rendit difficile à sa famille et à la famille du cardinal de lui rendre visite. Sa mère fut autorisée à venir 4 fois par an. Après 1963, le cardinal Koenig lui fit de fréquentes visites de la part de Jean XXIII et de Paul VI. On demandait au cardinal s'il voulait venir à Rome occuper un poste de curie. Peu à peu, il se rendit compte qu'il était à charge aux Américains, dont la politique de détente ne s'accordait plus avec ce trop emblématique réfugié. Donc la politique avait changé et on essayait des rapprochements. Et évidemment, le cardinal était une sorte d'épine dans le pied. Et pas seulement dans le pied des Américains, également dans le pied du personnel de Rome. Rome non plus, je dis, n'était plus dans Rome. Et le personnel de la Sainte Église croyait désormais au dialogue avec le communisme. Dans les années 60-70, l'Église hongroise, privée de son pasteur, fut complètement asservie. Et lorsque le Monseigneur Agostino Casaroli entama pour le compte du Vatican des négociations avec le régime Kadar, ce dernier avait déjà totalement réduit au silence la véritable Église hongroise à l'aide des prêtres de la paix et de l'Office national pour les affaires religieuses. C'est pourquoi, dit le cardinal, le diplomate du Vatican entendit si peu de propos catholiques et que, à mon avis, la diplomatie du Vatican ne connaissant pas précisément la situation, se laissa entraîner dans des négociations qui ne présentaient que des avantages pour les communistes et de graves inconvénients pour le catholicisme hongrois. En 1971, c'est un émissaire de Paul VI qui vient lui dire qu'il serait avantageux qu'il quitte Budapest. On en fixa les conditions au cours de 6 jours d'entretien. Dès le 28 septembre 71, l'avion à Vienne, arrivé à Rome. On lui fit fête quelques jours. Mais les expériences amères, ainsi qu'il les qualifie, commencèrent bientôt. Il fixa son départ pour l'Autriche au 23 octobre. Il organisa quelques voyages vers les communautés hongroises. Munich, Kassel, Bruxelles, Portugal, en 1972. Les évêques hongrois vinrent s'en plaindre au Vatican, qui tenta de le réduire au silence. Il visita encore l'Angleterre, le Canada, les États-Unis en 1973. Ayant adressé ses mémoires à Paul VI, il en fut complimenté. Mais le 1er novembre 1973, il fut invité à s'en dessaisir et à renoncer à sa charge épiscopale. Il refusa toujours en argumentant sa position. Pour le 25e anniversaire de son arrestation, il reçut du Saint-Père la notification de sa mise à pied. Et c'est au 25e anniversaire de son procès que Rome annonça qu'il avait été écarté du siège épiscopal d'Esztergom. Le lendemain, voyant qu'on voulait faire accroire à un départ volontaire, le cardinal fit publier ses lignes qui concluent ses mémoires et concluront notre exposé. C'est donc le cardinal qui s'exprime ou son secrétaire. Le cardinal Mizzenti n'a renoncé ni à sa charge archiépiscopale ni à sa dignité de primat de Hongrie. La décision a été prise unilatéralement par le Saint-Siège. Après mûre réflexion, le cardinal a justifié sa position de la façon suivante. A. La Hongrie et l'Église catholique hongroise ne sont pas libres. 2. La direction des diocèses est entre les mains d'une administration ecclésiastique installée et contrôlée par le régime communiste. 3. Aucun archevêque, évêque ou administrateur apostolique n'est en mesure de changer quoi que ce soit la composition ni au fonctionnement de l'administration ecclésiastique précitée. 4. Le régime décide qui doit occuper les postes ecclésiastiques et combien de temps les occupants doivent rester à leur poste. En outre, le régime décide qui a le droit d'être ordonné prêtre par les évêques. 5. La liberté de conscience et de religion garantie par la Constitution est opprimée dans la pratique. Le cours de religion facultatif a été banni des écoles des villes et des grandes localités. À l'heure actuelle, la lutte pour le cours facultatif de religion dans les écoles des petites communes continue. Contre la volonté des parents, la jeunesse est éduquée de façon exclusivement athée. Les croyants subissent des discriminations dans la vie de tous les jours. Les enseignants croyants ont été récemment sommés de choisir entre leur profession et leur foi. 6. La nomination d'évêques ou d'administrateurs apostoliques sans l'élimination des inconvénients précités ne résoudra pas les problèmes de l'Église hongroise. L'installation de prêtres de la paix aux principaux postes ecclésiastiques ébranle la confiance des prêtres fidèles et des croyants dans la direction ecclésiastique suprême. Dans ces graves conditions, le cardinal Bizenti ne pouvait pas résigner ses fonctions. Et il conclut, « C'est ainsi que je pris le chemin de l'isolement, d'un bannissement total. Voilà. » Petite confirmation peut-être justement de cette mainmise totale du régime sur l'Église. Je ne passe pas beaucoup de temps à faire des recherches sur Internet, mais enfin, je suis parti un jour en demandant certaines choses sur la Hongrie et j'ai appris qu'il existe, enfin je savais déjà qu'il existe depuis quelque temps à Budapest une publication que des historiens alimentent et dans lesquelles ils font connaître les documents qu'ils découvrent dans les archives communistes. Et alors, ils publiaient cette année, je crois que ça a été, j'ai relevé ça le 10 avril de cette année, que le cardinal Laszlo Paskai, 78 ans, qui a été nommé cardinal sauf erreur cette année, tout en étant archevêque émérite d'Estergom, donc il n'est plus en fonction, né en 1927, alors ce cardinal avait commencé à partir de 1965 à donner des renseignements sur ses collègues du séminaire. L'historien Christian Ungvari écrit dans cette publication que le dernier rapport connu du prélat date de 1974. Il concernait le cardinal Joseph Bizenti, condamné par le communisme à la prison à vie au terme d'un procès mis en scène en 1942. Donc, vous voyez, le prince Prima qui a succédé, qui était là, ben c'est un homme qui finalement faisait ses rapports à la police politique hongroise, donc il est à leur merci. Et ainsi, toute l'Église a passé sous le joug de... Et ce qui est terrible, c'est que le Vatican, avec l'os politique, en particulier la politique menée par le cardinal Casaroli, a privilégié cette piste, finalement. Il a cherché à avoir des arrangements, à faire des accords, uniquement avec les gens qui conduisaient cette politique, avec les prélats qui avaient été nommés dans ces conditions. Alors, donc, le cardinal Bizenti, on peut dire, aura été persécuté et martyrisé une dernière fois, non plus par les sbires politiques, par le communisme, mais par les infiltrés ou les traîtres, les prêtres de la paix, enfin ceux qui avaient pénétré dans l'Église. Et qui n'en sont pas encore partis, loin de là. Hein. Voilà.
Juste une question. Les prêtres de la paix, là, c'est quoi exactement ça?
Écoutez, quand les communistes hongrois ont voulu organiser finalement leur pénétration dans l'Église, ils ont fait appel, ou ils avaient avec des prêtres qui était de tendance ou de sympathie, qui allait de ce côté-là, qui était de gauche, pour dire vulgairement les choses, hein, si on veut. Et ils les ont organisés en prêtres de la paix, en leur donnant, et ça s'est organisé même sur un plan plus général, on a fait des grands congrès mondiaux pour la paix, on a toujours proposé aux gens de beaux motifs. Hein, on lutte pour la paix, on lutte pour l'égalité, pour la fin de la misère, pour lutter contre la faim dans le monde, etc. Et puis, on a toujours essayé comme ça d'associer aux communistes des chrétiens et des catholiques. Mais ce n'est pas eux qui définissaient la politique. Finalement, ils ont, tous ceux qui sont rentrés dans ce jeu-là, ils ont été possédés. Ça a été le cas avec l'Action catholique, en France, dans nos pays aussi, où elle a été carrément, on peut dire, noyautée. Et puis elle a disparu, quoi. Elle n'a plus été ce qu'elle avait été au moment de sa création. Alors, ces prêtres de la paix, c'est ça, finalement. C'est un clergé et qui se, enfin, finalement, qui se sentait indépendant, qui ne prenait plus ses ordres chez les évêques, et puis que le pouvoir essayait de placer. Alors, à certains moments, avec des évêques faibles, ou dans des périodes de je ne sais pas, quand le cardinal a été emprisonné, ils ont pu les installer. Ils leur donnaient les moyens aussi, ils leur donnaient les résidences, les moyens financiers. Puis c'est eux qui finalement étaient au pouvoir, avec l'appui du pays, du gouvernement. Alors c'est quand le cardinal sort de prison, c'est la première chose qu'il a fait, c'est typique, c'est de vider tout ce monde, quoi, parce qu'il les connaissait. Mais je pense que quelques jours plus tard, ben, ces gens revenaient en place. Ouais. Ils avaient ce nom, on dit les prêtres de la paix.
La situation actuelle est comme même plus dans l'église.
C'est un peu, je vous entends avec plaisir parce que c'est cette impression terrible qu'on a. C'est les enquêteurs qui disent, mais c'est pas vous qui décidez de votre déposition, c'est nous, quoi. Donc l'important, c'est que nous puissions dire ce que nous avons prévu de dire pour qu'après, nous puissions vous condamner. La vérité n'a pas voie de cité.
Alors,
hein.
Maintenant, vous connaissez la vérité.
Bon, probablement que du côté arabo-musulman, ils ont un ricochet de plus. Là, ben, il y a une vieille tradition, disons, dans le marchandage, hein. Non, mais on voit les montages qui ont été faits comme ça. Le cardinal en cite un bon nombre. Quand même, mais c'est toujours faux. Hein. On l'a vu, une application là, qui est toute récente avec le général Pinochet. La manière dont on présente ce qu'il a fait, alors que finalement, c'est lui qui a victorieusement empêché son pays de sombrer dans le communisme. Et puis forcément, comme il avait en face des gens qui étaient armés, qui se battaient, ça ne s'est pas fait sans qu'il y ait quelques morts. Et il y en a eu bien peu. Le cardinal disait que la tâche première de l'évêque, c'était de la vérité, c'est-à-dire la vérité. Vous croyez que ce serait d'actualité encore aujourd'hui ?